Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Voici déjà 3 semaines que nous examinons le livre de l'Apocalypse, cette longue prophétie que la plupart considèrent comme un livre caché, secret, mystérieux, incompréhensible. Ce livre est appelé dans la plupart des Bibles Apocalypse de Jean. Or, ce livre n'est pas de Jean. Ce sont les hommes qui ont ajouté cela. Les 4 premiers mots de ce livre nous informent qu'il s'agit d'une révélation de Jésus-Christ. Au cours des 19 derniers siècles, bien des explications furent données au sujet de l'Apocalypse. Bien peu d'entre elles se sont avérées conformes à la vérité. À part Dieu, bien entendu, Jésus-Christ seul est digne de révéler le contenu de ce livre. C'est ce que confirme le 5e chapitre. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Autrement dit, aucun être spirituel, quel que soit l'endroit où il pouvait se trouver, n'était digne d'ouvrir ce livre. L'apôtre Jean poursuit son récit en disant, « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Le récit poursuit en confirmant que seul l'agneau immolé était digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Les 7 sceaux scellaient tout le livre. Ils s'appliquent au livre entier. En effet, le 7e sceau se divise en 7 trompettes, et la 7e trompette se divise, elle, en 7 fléaux ou 7 coupes. Pendant son ministère, Jésus s'adressait à la foule en parabole pour qu'elle ne puisse comprendre. Mais dès qu'il se trouvait en privé, il donnait l'explication de ses paraboles à ses disciples. De même, le livre de l'Apocalypse est présenté sous forme de symbole pour que ceux qui ne s'y intéressent pas sincèrement ne puissent pas comprendre. Cependant, le Christ a commencé à révéler la signification des événements à venir, décrits dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'il se trouvait sur le mont des Oliviers, en compagnie de ses apôtres. Ce fut la plus longue prophétie qu'il ait faite pendant qu'il était sur terre, qui nous soit rapportée dans les Évangiles. Au cours de l'entretien qu'il eut en privé avec ses disciples, Jésus leur expliqua les événements qui doivent précéder son second avènement, ce qui se passera à la fin de la présente époque. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et ses disciples vinrent en particulier, autrement dit en privé, lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Autrement dit, la fin de la présente époque, de cet âge, car le mot « monte » est traduit du grec « aion ». Cet entretien est raconté également par Marc ainsi que par Luc. En nous relatant les paroles du Christ, Matthieu décrit les guerres, la famine et les pestes qui eurent lieu à Jérusalem et dans les régions avoisinantes en l'an 70 de notre ère. Ce fut le premier accomplissement, à petite échelle, de ces prophéties. Par contre, la vision que l'apôtre Jean eut sur l'île de Patmos eut lieu 25 ans après les guerres juives en Palestine qui entraînèrent la ruine de Jérusalem et la destruction du Temple. Ce que Jean a vu n'est pas quelque chose qui s'était déjà passé ou qui allait se passer de son vivant, mais plutôt à une époque au cours de laquelle les hommes seraient capables de se détruire complètement, obligeant le Christ à intervenir pour éviter l'annihilation de toute vie sur la terre. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et, ajoute le Christ, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Certaines versions traduisent les mots « personne ne serait sauvé » par « nul vivant n'échapperait » ou encore aucune créature n'échapperait. Enfin, aucune chair ne serait sauvée. Donc il s'agit bien d'une époque où l'homme serait capable de faire disparaître toute vie de la surface de la Terre. Une époque sans précédent et que l'on ne reverra plus après elle. Sachez que souvent les prophéties s'accomplissent deux fois. Ce que le Christ annonce dans Matthieu 24 s'accomplit d'abord sur une petite échelle au début de notre ère. Mais ces prophéties s'accompliront une seconde fois à bien plus grande échelle. Dans leur chevauchée, quatre cavaliers amènent des guerres, des famines et des épidémies qui atteindront leur paroxysme au temps de la fin, ouvrant ainsi la voie au retour du Christ. Examinons ce qui se passe au fur et à mesure que l'agneau ouvre les six premiers sceaux, au fur et à mesure qu'il révèle ce qui doit arriver. Je cite « Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. À qui s'adresse cette courte injonction « Viens !» Pas à Jean. Cet ordre est adressé au premier cavalier, qui est donc invité à faire son apparition. Bien souvent, diverses interprétations ont été données à ce cavalier montant un cheval blanc. On affirme qu'il s'agit de Jésus-Christ ou de son œuvre sur cette terre. On croit qu'il correspond au Christ décrit au chapitre 19. Pourtant, Jésus avait déjà annoncé l'apparition d'un faux clergé, de faux prophètes qui s'amèneraient en prétendant être envoyés par lui, séduisant ainsi un grand nombre de gens. Lisons cet avertissement. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Ils tromperont donc beaucoup de gens. Dans sa seconde épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul les avertit que le mystère de l'iniquité, de ce qui est sans loi, agissait déjà. Il ne tarda pas à reprocher aux Corinthiens « Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, si vous recevez un autre esprit ou un autre évangile, vous le supportez fort bien. » Et en parlant de ceux qui s'amenaient avec cette contrefaçon de la vérité, il ajouta « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres du Christ. » Lisez donc cet avertissement donné dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 11. Jude, demi-frère de Jésus, écrit à son tour « Il s'est glissé parmi vous certains hommes qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. » Comment opère-t-il ce changement? Tout simplement en affirmant que si nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne devons donc plus nous soucier de la loi divine. Toutefois, ils omettent de dire que le péché est la transgression de la loi. En affirmant à tort que la loi est abolie, ils poussent les gens à ne pas s'en soucier et donc à vivre dans le péché. Si vous voulez savoir quelle loi est abolie, écrivez-nous afin de recevoir le texte de l'émission au cours de laquelle je vous l'ai expliqué. Il est exact que le cavalier qui chevauche le cheval blanc représente un Christ, mais ce n'est pas le véritable Christ, c'est un faux. Il amène un évangile qui est une contrefaçon, comme Paul en avertissait déjà les Corinthiens dans sa seconde épître. Ces ouvriers trompeurs agissent au nom de Jésus-Christ, ils s'approprient son nom, se présentent comme étant les représentants de Dieu, mais en réalité, ils ne sont que tromperies, séductions et contrefaçon sournoise. Ils modifient les Écritures afin qu'elles correspondent à leur enseignement, alors que c'est leur enseignement qui devait être conforme aux Écritures. Ils se déguisent en ministres de justice. Ils se font passer pour des apôtres du Christ, comme Paul le confirme. Ils affirment être chrétiens et séduisent la majorité. Comment pouvons-nous différencier le vrai Christ du faux? Comparez tout simplement le 6e chapitre de l'Apocalypse avec le 19e. À son retour, le Christ montera également un cheval blanc, mais il aura une épée qui sortira de sa bouche. Cette épée est la parole de Dieu, qui est une arme à double tranchant. Il portera sur sa tête plusieurs diadèmes, et on pourra lire sur son vêtement et sur sa cuisse un nom, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Par contre, le faux Christ a une couronne et un arc à la main. L'arc n'est pas le symbole de la vérité. Ce cavalier n'est qu'une subtile contrefaçon du Christ. Il trompera bien des gens. L'époque de l'apparition du premier cavalier d'Apocalypse 6 est éloignée de la venue du Christ. De grands et terribles événements doivent encore se passer avant la venue du Christ, qui marquera la fin des malheurs et des fléaux qui s'abattront sur cette terre. Ces deux cavaliers apparaîtront à des époques différentes. Plusieurs années les sépareront. Par conséquent, ils ne peuvent pas être confondus. Le faux Christ apparaît en premier lieu, alors que le retour du Christ ne survient qu'après de nombreux événements redoutables et tragiques auxquels il mettra fin. Si le premier cavalier était le Christ, alors son retour aurait lieu avant la grande détresse, avant la grande tribulation provoquée par la colère de Satan. Et la Bible nous montre bien que ce ne peut pas être le cas. Paul, Jude et d'autres encore ont annoncé la venue de fausses religions portant le nom du Christ, affirmant être chrétiennes. Elles naquirent déjà à leur époque et n'ont cessé de se multiplier depuis. Ne confondez pas le premier des quatre cavaliers de l'Apocalypse avec Jésus-Christ. Ils monteront tous deux un cheval blanc. Le premier cavalier annonce pour la fin de la présente époque la venue d'un faux prophète qui fera de grands prodiges décrits au 13e et 16e chapitre de ce livre. Il aura une grande influence sur la vie politique, c'est ce qu'explique le 17e chapitre. Ce faux prophète sera un instrument de Satan. Il aura une puissance extraordinaire, il fera des prodiges et émerveillera le monde. Seuls les véritables chrétiens, ceux qui font la volonté de Dieu en mettant en pratique toute sa parole, reconnaîtront qui il est vraiment et ne se laisseront pas séduire. Tout cela aboutira à un nouveau martyr des saints du Très-Haut, martyr décrit dans le 5e sceau. Mais nous ne devons pas paniquer devant ces récits. Bien des charlatans, des gourous s'en sont servis pour installer un climat de crainte au sein de leur communauté, les poussant parfois au suicide collectif. Ne vous découragez surtout pas, Dieu a promis de ne jamais abandonner les siens. Cette révélation nous montre qu'après ces jours-là, le Christ règnera. Alors la joie et la paix seront enfin sur la terre.